Bonsoir tout le monde, c'est à la source ce soir, depuis CFM Radio et Radio Terre, pour une résidence de l'ARA, l'Assemblée Régionale des Radios Associatives, depuis les Halles de la Cartoucherie de Toulouse, qui nous accueille pour 3 jours. La Halle de la Cartoucherie, c'est un projet qui s'inscrit dans une démarche sociale et environnementale, et CFM Radio et Radio Terre centrent une partie de leurs émissions sur des problématiques de la malbouffe, des démarches responsables, d'une agriculture à taille humaine et de l'exploitation des circuits courts pour mettre en avant les initiatives permettant de développer des passerelles entre de grands centres urbains et leur territoire dans une logique éco-responsable. Ces 3 émissions de ce soir, demain et mercredi soir seront l'occasion d'expliquer et de mettre en valeur la restauration et les pratiques alimentaires responsables de la Halle, l'exploitation des circuits courts, le lien entre zone urbaine et rurale et l'approche sociale et éco-responsable d'un quartier totalement remodelé que celui de la Cartoucherie. Ce soir, pendant 1 heure, c'est Ripaille et Boostify au menu. On va faire bonbons avec Nicolas Rivière de Radio Terre. Salut Nicolas.
Bonjour Isa.
On vous parlera de l'école de cuisine, la source installée à la Cartoucherie et des actions sociales mises en place depuis l'ouverture de septembre 2023. Ce sera après, pour commencer, c'est Aligo et Café avec nos invités.
Oui, alors Aligo avec Julie Latuel-Bonas et puis Café avec Jean-Marc Sanchez. Donc Jean-Marc, vous êtes, on peut dire, torréfacteur, hein, sous la marque Acapella. On va venir longuement. Pas que torréfacteur, hein, vous êtes aussi caféier, théier. Enfin, exactement. On va voir que vous avez beaucoup d'activités. Et puis vous, Julie, avec Laurent, avec Bobine Aligo, vous avez décidé de faire croquer un peu d'Aveyron à Toulouse. C'est d'ailleurs l'un de vos slogans, faire goûter un peu d'Aveyron à Toulouse, avec une idée qui paraît un petit peu saugrenue comme ça. Faire de l'Aligo version tapas, ça c'est parce que vous êtes ruténoise d'origine, mais que votre mari, lui, est basco-gersois. Donc il a eu envie de faire un pinchos aveyronnais, et vous avez inventé des croquetas, ou des croquettes, hein, pour le dire en français.
Oui, c'est ça, oui,
des croquettes d'Aligo. Alors oui. Racontez-nous un petit peu comment cette idée-là a germé, et puis on va évidemment détailler tout le processus et la façon dont vous travaillez avec Bobine.
Enchanté déjà, bonjour, parce que on est ravis de participer à cette émission. Je n'étais pas restauratrice, pardon, à la base, mais lorsque j'ai rencontré mon mari à l'aube de mes 40 ans, j'ai eu envie de me lancer dans un nouveau projet. L'Aligo, c'est le plat phare de mon pays, l'Aveyron, l'Aubrac. Et la rencontre avec mon mari basque et l'ouverture d'un restaurant qu'on a complètement créé dans un endroit qui n'était pas lieu de restauration, nous a amené à transformer l'Aligo pour le rendre mangeable en tapas, donc pour qu'il puisse être partagé. C'est pas un plat traditionnellement à partager, c'est un plat qui va être vraiment dans une assiette, servi généreusement.
Roborratif. Hein.
Oui. c'est généreux dans le goût, dans les ingrédients, en effet. Ouais. Et il fallait pouvoir le proposer sur une table, mais à partager entre amis et garder ce côté tapas.
Alors voilà. Vous l'avez effectivement, et on en discutait tous ensemble en préparant cette émission, vous avez réussi à faire d'un plat de terroir, hein, c'est l'incarnation même du plat de terroir, vous avez réussi à en faire quelque chose d'un peu funky, quoi, hein, c'est un petit peu l'idée. Processus de fabrication à respecter, ça c'est quelque chose d'extrêmement normé, parce que pour le mettre au point, là il a fallu réfléchir et...
Ça paraît simple, transformer n'importe quoi en croquettes. Ce plat, l'Aligo, il est donc à base de pommes de terre, crème crue et tomes fraîches, qui le rendent friable lorsqu'il est froid et très, très souple lorsqu'il est chaud. Donc il fallait arriver à le transformer, qu'il puisse être comme une pâte à modeler. Et on a mis quasiment 3 ans à pouvoir obtenir quelque chose qui se modèle, mais qui en plus puisse se paner et se frire. Hein.
Et vous l'avez évidemment conditionné. Vous en vendez aujourd'hui, bon, évidemment à Bobine, mais vous en vendez aussi à d'autres restaurateurs. Ouais. Et vous envisagez de passer à l'export, hein,
oui.
Bientôt.
J'aimerais bien, ouais.
Vous avez fait adapter une machine pour ça. Vous avez déposé un brevet. Vous avez un petit peu protégé, hein, cette croquette d'Aligo. Racontez-nous, pour entrer dans des processus, disons, de cuisine, hein, comment, oui. Comment vous y êtes pris?
sans en dire trop, parce qu'on a...
Mais oui, justement... c'est un secret, évidemment.
Non, alors, c'est pas un gros secret, mais on a arrêté le restaurant fin 2022. Dans le restaurant, on fabriquait les croquettes manuellement. C'était une étape qui était vraiment laborieuse. On monopolisait l'équipe entière pour en fabriquer sur une journée et que ça puisse tenir les trois jours suivants. Et on faisait ça voilà, deux fois par semaine. Lorsqu'on a arrêté fin 2022, on a fait un break d'un an. Et on s'est posé la question de savoir si on partait sur cette aventure du monoproduit. Mais dans ces cas-là, il fallait pouvoir le multiplier à foison et pouvoir faire des quantités régulières aussi de croquettes, puisque le poids, la taille était important pour pouvoir le distribuer. Et on est allé chez ceux qui maîtrisent très bien le tapas, c'est-à-dire les Espagnols. On est allé là-bas plusieurs fois et on a rencontré une famille qui avait créé une machine pour faire des croquetas espagnoles, donc à base de béchamel, tout simplement.
On peut faire à la morue, au jambon, tout
c'est
un tas de choses.
Ouais, cette base de béchamel, elle est multipliée à foison. Mais notre produit de base, l'aligo, a eu du mal parce qu'il est beaucoup plus épais, plus solide, plus étirable. Donc il a fallu adapter cette machine qu'ils produisaient eux uniquement. Hein. C'est une société qui ne fait que des machines à croquetas, pour vous dire le volume qui est produit là-bas en Espagne. Et donc il a adapté cette forme de piston en fait pour que notre produit puisse sortir un peu le même principe qu'une machine à churros avec un piston voilà, et qui sort nos croquettes boulées. Et puis après il a fallu élaborer une panure, deux panures, est-ce qu'on n'en fait qu'une, quelle quantité de farine pour l'épaissir, etc. Et après arriver à bloquer cette croquette une fois frite, la bloquer pour pouvoir après en effet la distribuer au restaurateur. Hein.
Donc beaucoup de travail de recherche et développement mené avec Laurent. On ne l'a pas précisé, vous l'avez souligné, vous aviez un restaurant à Muret, le Pic, qui était un immense établissement auparavant. Et puis en 2022, vous avez cessé cette activité pour vous consacrer donc à Bobine. Vous êtes arrivé récemment à la cartoucherie en septembre dernier, septembre 2025. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans le projet de la cartoucherie de venir, voilà, encore une fois, illustrer ce terroir-là, cet environ-là, que vous illustrez d'ailleurs, pas uniquement avec des croquettes d'aligo, mais aussi avec des farsous, avec des viandes que vous sourcez et on va y venir. Voilà, qu'est-ce qui vous a séduit, enthousiasmé dans ce projet de cartoucherie, Julie ?
Avant d'arriver à la cartoucherie, on a donc après ces un an d'élaboration de la croquette, on est parti sur les routes pour tester ce produit auprès de nos prochains clients et puis aussi tester sa résistance, les quantités, le diamètre de la boulette, voilà, plein de choses. Donc on a pris un food truck et on est parti tous les deux. On est passé de 20 salariés dans le restaurant qu'on avait avant à deux et sur les routes, vraiment aux quatre coins de la France. Et on a eu l'occasion de venir ici, on a participé à pas mal de concours d'innovation, et on a eu l'occasion d'être sélectionné en tant que jeune pousse dans les Gasconneries. C'est une manifestation portée par la fille d'André Daguin, qui avait monté un très bel événement ici. Et en tant que jeune pousse, on a pu tester du coup au cœur de la cartoucherie l'intérêt de notre produit pour cette clientèle. Et à partir de là, je pense qu'on a dû actionner les bonnes lumières, en tout cas, pour pouvoir candidater sur une ouverture de loge qui se libérait. Et on s'est dit que c'était le meilleur endroit pour justement développer cette croquette auprès de la clientèle. Ouais.
Alors Lisa le soulignait en introduction de cette émission. Évidemment, le sourcing est très important. C'est une démarche qui est d'ailleurs revendiquée par la plupart des restaurateurs qui sont installés à la cartoucherie. Vous travaillez avec une coopérative qui s'appelle la coopérative Jeune Montagne, qui est née dans les années 60 et qui regroupe quoi, 200 coopérateurs à peu près. Elle est installée à l'Aïeul. Ça, c'est très important. C'est le pilier sur lequel vous vous appuyez. C'est un élément fondamental pour vous.
C'est la rencontre clé qui a permis le développement. On a produit nos croquettes tout seul dans notre laboratoire sur Cugnot pendant 4 mois. Et à l'issue de ces 4 mois de dingue, puisqu'on a transformé plus de 3 tonnes d'aligo.
Oui, ils se sont demandé qui sont ces deux cinglés qui nous achètent 3 tonnes d'aligo en 4 mois. Qu'est-ce qu'ils font ?
C'est ça. Et ils se sont intéressés. Alors, c'est pas à l'Aveyron, le tapas, c'est pas une manière de consommer. Tout simplement, tous les produits ne se transforment pas en tapas en Aveyron. Il y a très, très peu de restaurants de ce genre-là. Et donc, ils sont quand même venus à Toulouse. Ils sont venus nous rencontrer, voir comment on produisait. Et je pense que ce qui a fait tilt chez eux, c'est qu'ils ont retrouvé tous les codes de l'eau dans notre croquette. il fallait absolument qu'on y retrouve ces codes, c'est-à-dire qu'on ne le transforme pas. C'est l'Aligo qui vient de leur produit phare, c'est-à-dire la tome fraîche. Ils ont, grâce à eux, la tome fraîche à l'IGP depuis 2 ans. Donc il fallait retrouver ces codes. On a juste fait une petite variante avec du piment d'Espelette et ça a matché.
Ça, c'est la touche de Laurence.
Ouais, mais ils ont aimé. Ils sont quand même assez chauvins, mais ils ont aimé. Et à partir de là, on a décidé ensemble de faire un partenariat parce que du coup, c'était très logique. C'est-à-dire que l'Aligo était transformé sur l'aïole et on pouvait directement, cet Aligo, créer un laboratoire pour le transformer en croquette. Donc on est parti former l'équipe 3 mois début 2024 pour pouvoir les initier à cette machine. Et on a fait ce partenariat pour plusieurs années. Ouais.
Ouais. Alors, les croquettes d'Aligo, la race au braque mise en avant avec les viandes aveyronnaises, oui. Le farceau qui est quand même là oui. aussi un plat emblématique, la saucisse à l'huile. Oui. Est-ce que vous vous sentez dépositaire d'une forme de patrimoine ici? Parce qu'il y a des cuisines du monde, il y a des restaurants qui illustrent encore une fois des cuisines des 5 continents. Est-ce que vous, vous avez la sensation d'être encore une fois les dépositaires d'un patrimoine à revendiquer, patrimoine rural qui n'est pas des moindres d'ailleurs. La cuisine aveyronnaise est quand même a beaucoup essaimé à Paris, on le sait avec les bougnats. Aveyronnais et Auvergne. Est-ce que c'est un flambeau que vous portez, Julie?
On a cette réputation, les Aveyronnais, de parler beaucoup de notre pays. Je ne sais pas, Jean-Marc, ça fait que 4 mois que je connais, mais je pense qu'il a déjà beaucoup entendu parler de mon Aveyron. C'est clair qu'on le revendique. Il y avait encore au pavillon Baltard ce week-end la fête des Auvergnats et des Aveyronnais qui était vraiment mis en avant avec des centaines de personnes, des danses, etc. En tout cas, ce qu'on a comme valeur commune, tous les Aveyronnais, c'est qu'on veut être fiers des produits que l'on propose. Et je pense que le sourcing, c'est la base de notre fierté, voilà, de notre raisonnement. C'est sélectionner les bons produits, ne pas les transformer, savoir contacter les bonnes personnes.
Enfin, les transformer les moins possible et en respectant la matière première.
Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Et en tout cas, écouter les conseils de ceux qui fabriquent très bien pour pouvoir arriver à avoir un produit qualitatif. Et on a ce label, cette marque fabriquée en Aveyron, qui est donc un label qui est dépositaire de toute cette démarche-là, locale, raisonnée, circuit court. Et on a toutes nos viandes viennent, en tout cas, sont labellisées fabriquées en Aveyron.
Label Sud de France aussi
Pour nos croquettes, oui, on a eu un gros appui de la région. Lorsque l'on a gagné, on a gagné le prix coup de cœur du jury sur les pépites de la food, organisé par le MINE en 2024. Et au sein du jury, il y avait 2 membres de la région, de ADOC, l'agence de développement de l'Occitanie, et qui nous a vraiment pris sous son aile, qui nous a permis un fort développement et un fort rayonnement. On était ce week-end sur le Mythe, à Marché Gourmand, aussi en collaboration avec Sud de France, pour mettre justement en valeur cette croquette. Dans le food truck que nous avons gardé, nous faisons essentiellement de la croquette en accompagnement de viande, donc ça a été très fier.
Bobine Aligo, vous êtes dans le food court, du coup des Halles de la Cartoucherie. Alors vous êtes en face de la salle de sport, ce qui est pas plus mal, je crois, niveau calorique. Vous parlez d'exportation de vos croquettes d'Aligo. Quel était l'accueil des Ruthénois, en l'occurrence des Aveyronnais, chez eux directement? C'est pas une hérésie de faire des croquettes d'Aligo?
Ouais, c'est une super question et je l'avais pas vu comme réellement on l'a vécu. C'est-à-dire que lorsqu'on a sorti cette croquette, on a pu faire un partenariat avec le club de rugby de Rodez, qui nous a fait venir pour leur montée en national, enfin, sur une montée de match. Et première fois qu'on sortait la croquette d'Aligo auprès des Aveyronnais, je peux pas dire que c'était un fort succès. D'abord parce qu'ils avaient mangé l'Aligo à midi, comme à chaque fois. C'était le repas du club. Donc le soir, de leur proposer de nouveau des croquettes, mais lorsqu'ils y vont pas spontanément, parce que c'est pas leur manière de manger. On avait la coopérative Jeunes de Montagne qui était au Mythe aussi avec nous, qui avait un stand, et avec donc 3 producteurs de lait qui étaient là, à qui on a fait goûter les croquettes. Spontanément, ils ne voient pas l'intérêt, parce que pour eux, ça marche très bien, l'Aligo à l'assiette, donc ou en barquette. Donc ça. Mais par contre, une fois qu'ils le goûtent, ils sont convaincus, parce que encore une fois, ils retrouvent ces codes. Et puis c'est une autre manière en fait de le faire filer dans la bouche, donc visuellement c'est sympa, enfin voilà, ça le modernise, ça le transforme.
Jean-Marc, on vous entend peu pour le moment, mais on va s'intéresser à vous.
Ben merci.
Alors, attends, on parle produits locaux, hein.
Ouais. Et
oui.
Café. Et justement, ça c'est quelque chose qui est très intéressant avec vous. Alors, Il faut préciser que vous êtes issu d'une école qui est tout près d'ici. Là, on est à la cartoucherie.
Oui, c'est
vous
vrai.
Vous avez un parcours d'agronome, Jean-Marc.
Alors,
vous avez été formé à Purpan.
Oui, à l'école d'agriculture de Purpan. Et alors, on dit qu'on est ingénieur en agriculture. Et on a nos collègues agronomes, ingénieurs agronomes, qui sont de l'ENSAT, École nationale supérieure d'agronomie de Toulouse. Donc, nous, on est un peu plus botte, on va dire, peut-être, agriculture appliquée, ouais.
Julie Ruthénoise, vous êtes du Roussillon.
Et ouais, c'est ça. Donc tout ce qu'elle a dit, d'ailleurs, je suis content d'être là parce qu'on se croise évidemment, mais je n'ai pas eu l'occasion d'avoir ton histoire. Elle est passionnante. Et puis je vois quelques points communs. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je suis héréditaire à moitié catalan et à moitié, on va dire, toulousain, occitan. Et la Catalogne, c'est aussi un endroit fort de caractère, fort d'une empreinte aussi gastronomique, avec beaucoup, beaucoup de spécialités. Et c'est vrai que par rapport à mon histoire, c'est un retour dans mes origines aussi, d'avoir planté là-bas du thé.
Oui, alors on va y venir parce que vous plantez du thé. Vous êtes issu, alors dans le Roussillon c'est très courant, vous êtes issu d'une famille de vignerons.
C'est ça.
Et puis vous vous êtes tourné quand même, parce que à travers votre formation d'agronome, vous êtes intéressé à la protection des plantes. Pendant très longtemps vous avez travaillé pour trouver des solutions alternatives aux pesticides. Et puis vous vous êtes intéressé au café, au thé. Et là, alors, il y en a certains qui ont une idée bizarre, celle de faire des croquettes d'aligot. Vous, l'idée bizarre que vous avez eue, c'est de planter du thé dans le Roussillon. Peut-être du café, vous allez nous le dire, mais sur le thé, ça c'est quand même. Vous êtes un des rares en France, peut-être même le seul à avoir tenté cette.
Le seul, non, parce qu'il y a quelques irréductibles bretons qui ont tenté l'expérience, mais d'une manière un peu plus, j'allais dire, accessoire, parce qu'ils ont planté du thé avec une philosophie d'agrotourisme, de formation, à côté de plantes médicinales ou d'autres types de plantes, donc c'était un plus. Moi, j'ai planté du thé dans un agro-écosystème totalement innovant, donc un climat méditerranéen, donc tout un tas de choses qui le rendaient un peu impossible, et avec une volonté d'avoir un modèle paysan. C'est-à-dire de pouvoir faire vivre une famille d'agriculteurs à 100% sur une culture de thé. Donc il m'a obligé à aller de l'avant dans la massification, dans l'économie d'échelle, d'implanter 30 000 plants et pas 5 000 par exemple, et d'augmenter la surface pour diluer les charges fixes, voilà, faire un modèle économique aussi.
Alors que vous avez planté à Saint-Cyprien, qui n'est pas le quartier limitrophe de la cartoucherie, mais une commune dans le Roussillon, vous disiez, c'est pas un climat qui s'y adapte.
Non.
Ça pousse où le théier normalement, dans des climats tropicaux
Alors tiens, c'est marrant ça, parce que tout le monde me posait la question. Alors par rapport au caféier, on y reviendra peut-être, c'est un peu plus original, mais vous savez, les Japonais plantent du thé au Japon, en Asie, et c'est une latitude qui est similaire à la nôtre. Donc c'est des zones tropicales et subtropicales, pardon. Et donc, on peut imaginer d'avoir du thé dans nos latitudes. D'autres questions vont se poser, le vent, l'eau, le soleil, etc. Et ça, on peut résoudre les problèmes de manière rationnelle en essayant de mettre en place un système, et c'est ce que je dis, agro-écosystème. Pour faire de l'ombre, on met des panneaux photovoltaïques. Pour l'eau, on va mettre des couverts végétaux, on va pailler, on va mettre du goutte à goutte. Pour le vent, on met une serre. Après, comme on est en bio, on ne va pas chauffer, donc c'est une hérésie aujourd'hui de chauffer. On le
sait. Dans le Roussillon.
Dans le Roussillon, surtout l'hiver d'ailleurs. Non mais il gèle, vous savez, à Perpignan, il a gelé deux fois, donc moi j'ai perdu mes caféiers à cause de ça. Donc il gèle l'hiver. Voilà, on est en zone septentrionale quand même. Mais on arrive, vous voyez, à essayer de régler les problèmes un par un et à faire pousser dans la région du Roussillonnaise, du thé, en prenant les avantages. Les avantages, c'est le soleil. On a du soleil d'avril à décembre. Moi, je récolte du thé au mois de décembre, ce qui est exceptionnel. Voilà. Et on commence à récolter au mois de mars-avril. Donc, on a vraiment une latitude de récolte très forte dans nos contrées. Donc, il y a vraiment un potentiel. Ouais.
Alors, moi, j'ai déjà essayé de planter du thé et du café. Oui. Alors, le caféier est mort parce que mon chat s'est assis dessus.
Ah, ça,
le thé, dès que je l'ai rentré dans la maison, il est mort directement.
Ah, ouais.
Ma question, c'est thé noir ou thé vert?
Alors, le thé noir et thé vert, ça ne dépend pas de la variété, ça dépend du process après récolte. Donc, on peut, d'un même plan, faire du thé noir, du thé vert, du thé blanc, du thé houlong, du thé bleu. Donc, ça, c'est vraiment le process. Du thé rouge, alors, le thé rouge, c'est les Chinois qui appellent le thé noir le thé rouge parce qu'ils regardent la couleur de la liqueur et pas la couleur des feuilles, comme nous, on peut le voir. Mais donc, cette couleur va dépendre vraiment du process après récolte. Donc, moi, je le fais dans un petit chalet dans les serres, sur place. Mais il faut avoir l'occasion de le faire, parce qu'apparemment, le théier est mort chez vous, c'est ça? Pour quelle raison?
Alors là,
hein. Je ne sais pas. Alors, c'est vrai, il faut avoir un petit peu la main verte, il faut quand même les nourrir.
J'avais envie que vous me disiez que ce n'était pas de ma faute.
Ce n'est pas de votre faute, sans doute. Peut-être du chat, je ne sais pas. Il était où? Mais en tout cas, le théier, c'est quelque chose qu'on peut faire pousser. Et là, tu le disais, mais je suis super content, parce qu'au niveau technique, au niveau... on a réussi. Ça fait 5 ans. Je produis 400 kg de thé sec. C'est un rêve qui devient réalité. C'était pas gagné, c'est sûr. Et on peut dire qu'on est les plus gros producteurs de thé aujourd'hui en France, alors Europe, enfin en France métropolitaine, hein, puisqu'on a quand même des théiers sur l'île de la Réunion. Mais on y est arrivé.
Le café, c'est encore un peu compliqué, hein, Jean-Marc. Hein,
oui.
C'est pas pour tout de suite.
Alors, le café, j'ai pas dit mon dernier mot. Je réfléchis, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a le problème du gel. Et comme on ne peut pas chauffer les serres, alors, tu vois, on parlait de... Moi, j'ai fait ma crise de la cinquantaine post-Covid, c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Je voyageais beaucoup, pas très original, mais j'ai voulu planter du café et je me suis aperçu qu'il gelait et que dans des serres non chauffées, ça gèle. Donc ça, il faut chauffer. Et après, il y a eu la guerre en Ukraine, enfin, il y a eu tous ces trucs-là qu'on voit, et notamment la souveraineté, l'azote, l'énergie, qui rendent un agroécosystème chauffé avec du gaz totalement inepte au niveau économique et au niveau presque environnemental, quoi.
Alors justement,
il faut trouver.
Justement sur ces aspects-là, puisque le café est sans doute l'un des produits alimentaires qui voyage le plus. Vous, on vous trouve évidemment à la cartoucherie. Vous avez deux autres implantations à Cornebarieux et puis avenue Camille Pujol, hein, dans l'est toulousain. Aujourd'hui, le café, est-ce que c'est un produit qui a une empreinte carbone, enfin voilà, qui a une empreinte carbone très marquée? Comment vous faites? Quelle est votre philosophie de travail avec Acapella, hein, qui est la marque que vous développez, pour précisément essayer, disons, de boire un café le plus vertueux possible? On peut imaginer, on peut supposer que c'est votre perspective, votre état d'esprit.
C'est ça. Alors on a cherché, en effet, bon, de toute façon, si on ne peut pas le produire ici, on va le chercher là où il est, c'est-à-dire en Éthiopie, en Afrique centrale et en Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc tu parlais de carbone, oui, en effet, il faut aller le chercher là-bas. Après, on peut essayer d'optimiser tout ça. Donc il y a deux choses. Des fois, on va voir des cafés qui sont transportés à la voile. Donc nous, on achète du café transporté à la voile. Et puis on a une filière qui s'appelle le café de spécialité, qui représente 2 à 6% du marché. Alors je connais, les chiffres dépendent un petit peu de l'année. Mais c'est encore epsilon dans le marché du café, mais ce marché-là rémunère les producteurs, donc on paye le café plus cher, on a une traçabilité jusqu'à l'agriculteur, et les cafés sont standardisés, ils sont notés par des qualités aromatiques et des saveurs, ce qui nous permet, nous, de valoriser ça et donner un peu de la valeur dans notre café pour pouvoir rétribuer aussi plus correctement le producteur. Donc voilà, donc on essaye de passer... Alors nous, c'est que des cafés de spécialité, donc traçables.
Pourquoi dit-on de spécialité, d'ailleurs ?
Alors c'est une bonne question, ça vient des États-Unis, c'est Specialty Coffee, donc la traduction. Et Specialty Coffee, c'est une association qui a créé cette filière, qui est venue en Europe et qui est venue en France il y a quelques années. Et bon, voilà, on a traduit tout simplement café de spécialité, parce que je pense que c'est pour un petit peu venir en contradiction avec le café de commodité, où là on n'a plus de traçabilité, on a des grands lots, on est standardisé, on a des marques forte de torréfacteurs, mais on ne fait pas référence forcément à la finca ou à l'estancia, enfin en tout cas à la ferme d'origine, et on ne donne pas forcément toutes les informations parce que c'est un mélange de cafés qui sont échangés sur le marché de Chicago, sur les marchés et qui sont négociés sur comme des commodités. Quoi.
Vous ne proposez que des cafés de spécialité?
Que des cafés de spécialité, bio pour 80%. Et puis voilà, avec notre touche, on va sourcer directement, on va essayer de faire des concours pour valider un peu l'offre et essayer de faire découvrir aux consommateurs des cafés différents, gustativement et aussi par leur histoire, évidemment. Quoi.
Thé, café et Aligo pour commencer cette émission spéciale depuis les Halles de la Cartoucherie à Toulouse. On est pour 3 jours en résidence, donc on parle alimentation, circuit court, en particulier café, donc avec la torréfaction Acapella. Jean-Marc Sanchez, merci beaucoup.
Merci.
Et croquette d'Aligo avec Julie Latiol, Monas, Bobine Aligo, merci beaucoup.
Merci à vous.
Une petite pause musicale, c'est Aurélien aux manettes, on se retrouve juste après, on parlera école de cuisine notamment, épicerie solidaire.